J'ai eu l'occasion, dans ma jeunesse, et j'ai eu cette chance de participer à cette grande expérience de coopération franco-allemande sur le char 90. Je ne donnerai pas mon âge, mais pour vous dire quels étaient mes camarades militaires qui, eux, participaient, j'ai pu noter le colonel Morillon, le colonel Toujouze et le colonel Goubillard. Donc, c'était avec eux que l'on a fait cette campagne d'Allemagne, ingénieurs et militaires et officiers. J'étais à l'époque jeune ingénieur et j'étais ingénieur de marque de la MX-30, AX-30B2, AMX-10RC et en l'engin principal de combat, puisqu'en France, ce char 90 s'appelait l'engin principal de combat, et qui est devenu char futur après, et puis Leclerc. Nous avions, vous verrez, plusieurs groupes, un groupe technique que j'animais et un groupe militaire que le colonel Morillon animait, et auquel, en tant que responsable technique du projet, j'avais cette chance de participer. Donc, nous avons passé quelques années en Allemagne, je dirais temporairement. Il faut considérer qu'on était à peu près de 3 semaines à 3 semaines et demie par mois en Allemagne, et on a visité absolument toute l'Allemagne, tout ce qu'il fallait avoir au niveau industrie, au niveau centre d'essai. Et malgré ce bel effort, eh bien nous n'avons pas réussi à faire ce que nous voulions. Alors, je vous présenterai cette première partie pour vous tracer l'historique de la coopération franco-allemande, avec trois grands thèmes, puisque c'est, pour moi, il marque les périodes. On a une première période des premières coopérations qui va démarrer en 1945, juste après la guerre. Une deuxième période qui est relancée avec les accords de Colombe-Béchard. Et puis la troisième période qui relance à nouveau la coopération franco-allemande en matière d'armement terrestre en particulier, le traité de l'Élysée. Alors, voilà. C'est compliqué de revenir. Encore un mot. Bon, très schématiquement, je voulais vous présenter l'avancée de l'Allemagne, et je me suis arrêté là en 57, on était loin d'avoir une Allemagne unie. Une première grande phase a été effectivement d'avoir de 45 à 49 à peu près une Allemagne qui était découpée en quatre zones d'occupation, entre guillemets, avec et puis sans guillemets, une unification de ces trois zones et avec la déclaration d'une république fédérale allemande le 23 mai 1949. Au niveau de la situation politique et politico-militaire, création de l'Union occidentale, le 17 mars, qui comprenait la France, la Grande-Bretagne et les pays du Benelux, mais pas l'Allemagne. L'OTAN, le 4 avril 1949. Et un peu plus loin, en 1953, nous aurons Finnabel, et vous verrez que Finnabel a une importance forte dans les coopérations. Création de l'UEO aussi en 1954. L'Allemagne adhère, est dans l'UEO dès sa création. L'Allemagne adhère à l'OTAN en mai 1957. Et l'Allemagne adhérera à Finnabel en mars 1956. Je dirais pourquoi Finnabel? Parce que... c'était pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Parce que Les opérationnels dans Finabel définissent les caractéristiques militaires qui peuvent être prises comme éléments de base pour des projets communs. Et tous nos matériels ont été sur Finabel. Au moins les deux grandes coopérations sur le char étaient tirées avec des caractéristiques militaires au départ, hein, qui étaient celles de Finabel. Première coopération, elles se sont passées juste à l'issue de la Première Guerre mondiale, où nous allons avoir en 1945 une équipe menée par le professeur Chardin, qui vient de Berlin, et une équipe qui est spécialiste en balistique et aérodynamique. Cette équipe, après être passée par Biberach, vient à Satory. C'était une petite équipe, une équipe de cinq Allemands, et repart vers Saint-Louis, cette fois-ci enrichie d'une équipe de Français, d'ingénieurs français. Et donc, on a été créé à Saint-Louis en 1945 un laboratoire de recherche en balistique. La deuxième équipe, c'est une équipe qui va venir de Peenemünde. Cette équipe de Peenemünde va arriver à Vernon. L'équipe de Peenemünde arrivant à Vernon, on va être aux alentours de 70 personnes. Et ces gens vont apporter à la fois la connaissance du moteur fusée liquide, qui est le moteur fusée liquide, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père du moteur Vulcain actuel sur Ariane. Donc, et beaucoup de ces ingénieurs qui sont arrivés à Vernon sont restés en France autour de Vernon, au LRBA. La troisième équipe, c'est l'équipe du professeur Maybach, Hans Maybach, Karl Maybach, qui, son père, venait de Friedrichshafen. Tous les moteurs de chars en Allemagne avaient été fabriqués par Maybach. Et donc, cette équipe, qui était donc dans la zone française, est venue en France implanter à peu près 60 à 70 personnes avec le docteur Maybach, se sont temporairement implantées à Vernon, et puis ont été transférées, cette fois-ci beaucoup plus tard, en 1955, à Satory, ce qui était l'AX. Donc, vous voyez qu'on a démarré une coopération, et ce n'était pas que des prisonniers de guerre. Il y avait parmi ces gens-là quelques prisonniers de guerre, mais c'était des volontaires qui voulaient travailler. Et c'est ce qui a véritablement généré les premières coopérations et en particulier sur les moteurs de chars, même si les coopérations ont échoué après.
Alors, comment je passe à une flèche ?
Ça, là, non, si ça marche. La deuxième grande période va commencer aux accords de Colombe-Char. La situation politique et internationale était très agitée. Il y a eu en 1956 le problème de Suez et la menace que la France et la Grande-Bretagne ont eue de la part des Russes et des Américains de frappe atomique si les troupes britanniques et françaises ne quittaient pas le canal de Suez. Deuxième fait aussi générateur, ça a été la révolte de Hongrie, hein, et la manière dont les soviétiques ont maté cette révolte hongroise. Sur cette base, les ministres allemands et français, hein, ont décidé de monter une coopération en matière d'armement entre la France et et l'Allemagne, coopération qui pouvait aller jusqu'au nucléaire. Elle était à la fois armement et nucléaire. Cette coopération, elle s'est traduite principalement par des achats croisés et des échanges d'informations. On n'a pas développé de programme durant cette phase-là, mais l'Allemagne a acheté un certain nombre de matériel. Vous voyez des AMX-13, diverses versions d'AMX-13, des EBR, a acheté des chenillettes Hotchkiss, 2000 chenillettes Hotchkiss, c'était pas rien à l'époque, a acheté des missiles en TAC pour leur évaluation, et il a été décidé que les matériels, les chars M47, M48 allemands, ainsi que les obusiers américains en Allemagne, seraient remis en état et remis à hauteur à Roanne, en France. De son côté, la France a acheté des engins gillois, parce que pour la petite histoire, bien que monsieur Gillois, ou le colonel Gillois, soit un militaire français, il a, lorsqu'il a imaginé ce type de matériel, il s'est associé à la société allemande EVK. Et en fait, les brevets d'invention ont été déposés au nom de EVK avec un co-inventeur, le colonel Gillois. Donc, la France a acheté quelques matériels gillois à l'Allemagne et puis a acheté des camionnettes Unimog. C'était surtout le grand projet de cette période. Le grand projet, ça a été le char standard de l'OTAN, char standard qui n'a pas vu le jour. On a décidé de caractéristiques militaires communes sur la base, comme je disais, de Finable 3 à 5. Vous verrez, pour le char 90, c'était Finable 19 à 5 que nous avons utilisé comme point de départ. Malheureusement, deux écueils, le moteur et le canon. Le moteur, parce que les Allemands ont voulu qu'on passe d'un moteur à essence à un moteur polycarburant, et un diesel de base. Et le canon, parce qu'au lieu de prendre le canon français, les Allemands ont préféré prendre le canon britannique et voulaient que la France prenne le canon britannique, donc le canon de 105 britannique. Et donc, après diverses péripéties, cette coopération s'est arrêtée et a donné l'AMX-30 du côté français et le Léopard 1 du côté allemand. La coopération est relancée en 1963 par le traité de l'Élysée, qui reconnaît véritablement un partenariat privilégié entre la France et l'Allemagne. Sans rentrer dans le détail, un succès au niveau des missiles, que ce soit les missiles anti-char deuxième génération Milan et Hoth, ou que ce soit au niveau du missile anti-aérien courte portée Roland. Ce qui est remarquable dans ce succès, pourquoi on pourrait attribuer ce succès, c'est le rôle qu'ont joué les industriels. Les industriels ont joué un rôle majeur et ont tiré les États. C'est bien le lien entre les deux industriels et l'association qu'il y a pu y avoir qui a permis aux États d'être tirés, alors que du côté du char, ce n'étaient pas les industriels, les États étaient là et décidaient de tout. Donc on verra que cet expérience, on peut passer. Voilà. Le char 90. Alors la situation des deux... tu peux passer. La situation des deux pays, hein, vers 80, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la MX-30. Nous pensions en avoir produit et exporté beaucoup, et il s'avère que, alors que nous avons exporté en gros 750 MX-30, les Allemands avaient exporté de l'ordre de 1600 Léopard 1, mais eux dans les pays de l'OTAN, alors que nous, c'était dans le grand export. Octobre 79, le premier Léopard 2 sort des chaînes, alors que nous, la MX-30 B2, donc une version modernisée de la MX-30 B2, sans le dénigrer, n'avait pas le même niveau de performance que le Léo 2. L'Allemagne, quand on venait rentrer dans le char 90, l'Allemagne venait de subir plusieurs échecs de coopération. Le premier échec, c'était avec nous, sur le char standard. Le deuxième échec, ça a été le MBT-70 KPZ-70, qui a donné le M1 aux États-Unis, le Léo 2 en Allemagne. Le troisième échec, ça a été le FMBT, le MBT-80, que les Allemands ont essayé de faire avec les Britanniques et qui a donné le Challenger pour les Britanniques. Et donc, les Allemands ont recherché un autre partenaire et nous étions Français prêts à être partenaires. Pour placer rapidement par rapport au programme Leclerc, cette coopération, vous voyez, c'est la petite partie en orange qui va de 76 à 81. Une organisation étatique avec un comité, avec déjà de 77 à 79 des études que nous faisions en commun et des échanges technologiques sur les blindages, sur la mobilité, sur la motorisation. Un comité directeur et un comité de coordination. Du point de vue industriel, la France était organisée avec GIAT comme maître d'œuvre et leader et une équipe de France, qui s'appelait véritablement l'équipe de France, d'une dizaine d'industriels coopérants de GIAT. Du côté allemand, une union entre MAK et Krauss-Maffei, hein, les deux producteurs de chars en Allemagne. L'un, et on verra que c'est important, Krauss-Maffei en Bavière, traditionnellement en Bavière, et l'autre à Kiel, dans le Nord. J'ai mis cette planche pour que vous vous imaginiez les concepts que nous avons travaillés avec les Allemands. On a beaucoup travaillé sur les concepts plutôt que sur les aspects plus concrets afin d'essayer d'identifier quel char on allait faire. Donc on est parti des chars 4 hommes ou des chars 2 hommes avec 3 personnes en tourelle jusqu'à 0 personne en tourelle, moteur à l'avant, moteur à l'arrière. On a essayé une quantité de configurations et on a travaillé pour arriver du côté français au Leclerc. Alors, j'ai passé des concepts que seuls les Allemands ont étudiés et ils ont fait 2 prototypes, par exemple, des chars à 2 canons. Hein, des chars à 2 canons parce qu'ils avaient eu l'idée que, allant beaucoup à la chasse en Bavière, ben, pour tirer, ce serait bien de tirer, d'avoir deux canons. Et donc le char tirait en pivotant sur lui-même et sur la même cible, il lançait deux projectiles, un par canon. C'était intéressant. Il fallait absolument être ingénieur hein, pour conduire et ne pas avoir le mal de mer dans ce type de véhicule. Mais vous verrez, si vous allez dans les musées en Allemagne, les musées des techniques de l'armement, vous verrez au moins l'un de ces prototypes. Alors, les causes de l'échec. Pourquoi, comment on peut analyser ces choses? Le premier point me semble un référentiel que nous avions, qui était un référentiel dépassé. Le référentiel, c'était le leitmotiv de l'époque, qui tient le moteur, tient le châssis, qui tient le châssis, tient la tourelle. Donc ça veut dire, si vous voulez être le maître du char, il faut être maître du moteur. Donc, et à français et allemand, nous étions sur ce schéma. Donc le moteur, il n'était pas question que chacun cède son moteur. Voilà. On verra qu'il y a des solutions pour résoudre ça. Et Giert Industrie l'a très bien résolu, ce problème. Puisqu'effectivement, on peut avoir un Leclerc avec un moteur français. C'est un ancien moteur Poyo, bon, même si les Finlandais l'ont acheté. C'est le moteur Poyo, et avoir le même char avec un moteur MTU pour un autre client. Mais à l'époque, c'était véritablement, on ne cédera pas le moteur. Deuxièmement, un objectif imprécis. Nous, négociateurs français, nous avions les instructions de faire un char commun. Les négociateurs allemands avaient comme instruction de faire une tourelle commune sur chacun son châssis national. Sur quoi les Allemands nous disaient, mais comme vous, vous n'avez rien en châssis national et que nous, on a le Léopard 2, prenez bien le châssis Léopard 2 et ne développons que la tourelle. Avec ce que je vous ai dit précédemment, vous voyez que c'était inacceptable. Troisième point, une négociation déséquilibrée. Et comme on dit toujours, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Là, c'était ça. Et la proportion que j'ai mise sur ce slide est bien faible par rapport à la réalité. Nous avions en face de nous une quantité d'interlocuteurs. Nous étions, nous, une dizaine à tourner par... On avait des dizaines d'interlocuteurs étatiques, plus tout l'IABG. Et l'IABG, c'est un monstre au niveau ingénieur. Hein, il y a des centaines et des centaines d'ingénieurs. Donc, on avait face à nous une mécanique extrêmement dure et nous étions très déséquilibrés. Des a priori sur le partage. Alors ça, c'était les a priori politiques français. Contrairement à nos principes, nos politiques nous disaient ce qu'il faut pour la France, c'est tout l'électronique. Alors que nous, on voulait quand même un peu de mécanique. Donc, et les Allemands, eux, ne se seraient pas contentés de toute la mécanique. Et puis, en fait, une instabilité politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez bien la date où on a rompu, bien, on a rompu sans rompre. Il n'y a personne qui a dit que la coopération était terminée. Hein. Personne n'a acté le fait que la coopération sur le char 90 était arrêtée. Eh bien, en mai 81, François Mitterrand arrive au pouvoir et va prendre des ministres, quatre ministres communistes. Autant dire qu'en Allemagne, avec le principe des, avec les problèmes des euromissiles qu'il y a pu y avoir, c'est pas très, très bien vu. Et du côté allemand, Schmitt, qui était protestant socialiste du Nord, s'est retrouvé battu face à une équipe qui était catholique, de droite, de Bavière. Donc, et alors que voyez, on avait accepté, que ce soit au niveau gouvernemental et au niveau industriel, que tout se passe en bourg, à la fois le bureau de programme et la maîtrise d'œuvre industrielle. Vous vous imaginez ce que l'industrie allemande, qui est des chars, qui est traditionnellement en Bavière, pouvait penser de cette coopération qui allait complètement les mettre sous la domination de l'industrie du nord de l'Allemagne. Pour conclure rapidement, je dirais, nous avions des critères trop contraignants, un poids très fort des États en l'absence des industriels. Les industriels étaient considérés comme secondaires. L'ambition de faire un char unique commun aux deux, basé sur un calendrier identique. Il n'était pas question qu'il y en ait un qui dise « Ah, moi, j'ai besoin du char qu'un an après, donc je passe mon tour pour le premier lot, je prendrai les lots suivants. » Non, il fallait que les calendriers. Et puis, une répartition 50-50 sur le char. Hein, on mesurait, etc. Heureusement, cette répartition-là, on a très vite vu, après cet échec, qu'il fallait changer. C'est pour ça qu'on a créé l'OCAR, avec l'OCAR, ce principe d'un équilibre, mais globalement sur tous les projets, et non pas projet par projet. Quelles leçons tirer? Les principes essentiels sont, vous voyez, j'ai mis en tête les industriels. Pour moi, la leçon que j'ai tirée, c'est que il est majeur que les industriels qui vont travailler veulent se marier. Alors, ils se marient soit en créant une société commune, ils se marient soit en créant des GIE, etc. Mais il est fondamental que la dynamique vienne de l'industrie. Les États doivent bien entendu être là, mais pour soutenir le projet et pas le soutien de chacune des industries. C'est aux industriels à être suffisamment grands. Le char ou le BTL, il n'a pas besoin d'être identique. C'est ce que je vous citais pour le Leclerc. On aurait très bien pu accepter, nous, d'avoir un moteur français et les Allemands d'avoir un moteur MTU sur le même char. C'est absolument pas rédhibitoire. Les calendriers, il faut beaucoup de souplesse dans les calendriers. Si quelqu'un le veut 2 ans après, ou etc. Hein, maintenant, on est habitué à faire des productions lot par lot, donc, et de ne même pas remettre à hauteur tous les lots antérieurs. Donc, on pouvait faire. Et puis, cette répartition, telle qu'elle est donnée à l'OCAR, une répartition 50-50 sur la globalité des programmes, mais pas du tout programme par programme. Voilà, merci beaucoup. J'ai été un peu long, mais je souhaitais vous présenter les conclusions qu'on a tirées. C'est ce que je vous ai dit à la fin, ces derniers slides, c'est les conclusions qu'on a tirées de notre échec. Alors, on n'est pas fiers de ne pas avoir d'avoir réussi à saboter la coopération, hein, mais on n'avait pas les bons critères qui permettaient de coopérer à l'époque. Merci beaucoup.